Chapitre 13. Les Huguenots proposent l'alliance avec les Suisses et les Mamelouks s'amusent à Turin. Octobre à décembre 1518. Élan de Bertelier. Les membres de Navis et la pomme de Tell. L'évêque et le duc nient le meurtre. Les députés se joignent au duco. L'évêque et le duc demandent 10 ou 12 têtes. Les chefs huguenots se consultent. Une assemblée demande l'alliance suisse. Marty de Fribourg soutient à Genève la liberté. Retour des députés genevois. Le conseil rejette leur demande. Le peuple s'assemble. La lettre ducale est refusée. Le moment était donc venu où les âmes de la première catégorie allaient se mettre à l'œuvre. Les patriotes comprenaient que les desseins envahissants de la Savoie étaient irrévocables et qu'il fallait par conséquent leur opposer une résistance énergique et inflexible. Bertelier, ouverture de guillemets, le grand mépriseur de mort, fermeture de guillemets, souriait froidement aux menaces de l'évêque. Magnanime, fier, résolu, et il crut voir s'approcher le moment bienheureux où se réaliserait son rêve le plus cher, donner sa vie pour sauver Genève. S'il voulait échapper aux cruautés des princes qui le menaçaient de deux côtés, il devait s'effacer, se retirer, abandonner ses plus nobles projets. Il éloignait avec effroi cette pensée. Résister à la conjuration dirigée contre les libertés de Genève était son devoir. S'il négligeait de le remplir, il se dégradait à ses yeux, il se livrait au remords, tandis que s'il accomplissait ce devoir, il était dans l'ordre, il se sentait à sa place. Il lui semblait qu'il devenait meilleur et plus agréable à Dieu. Mais ce n'était pas seulement le devoir impérieux, invincible, qui le poussait. C'était encore la passion la plus noble. Rien ne pouvait calmer les tempêtes qui s'agitaient dans son sein. Il se jeta donc, énergiquement, au milieu des dangers. En vain, Bonivard commençait-il à perdre espérance, et disait-il à son généreux ami, dans leur conférence de Saint-Victor, ouverture de guillemets, « Vous le voyez, les pensions et les menaces des princes induisent beaucoup de gens réputés sages à retirer leurs cornes. » Fermeture de guillemets. Bonivard ne pouvait arrêter l'élan de Bertelier. Ne se mettant en peine de rien, pas même de sa vie, pourvu qu'il sauvât les libertés de Genève, l'intrépide citoyen parcourait la ville, allait de maison en maison, faisait remontrance aux bourgeois un par un et prêchait par les chambres et les cabinets. Ces exhortations n'étaient pas inutiles. Une puissante fermentation commençait à animer les esprits. On se rappelait comment ces Suisses, dont on attendait la délivrance, avaient conquis leur liberté. Un chapeau placé dans Altorf, sur le haut d'une colonne, une pomme mise par un ordre barbare sur la tête d'un enfant, furent, selon les antiques traditions de ces peuples, le signal de leur indépendance. Or le bâtard le cédait-il à Gessler? Ses deux têtes, ses deux bras, n'étaient-ils pas un signal plus affreux encore? Les restes de Navis et de Blanchet restèrent longtemps exposés. En vain, le malheureux père, le juge Navis, adressait-il fréquemment à l'évêque de vives instances pour qu'il les fît enlever? Ce prélat prenait plaisir à cette démonstration de son pouvoir. C'était de sa part un étrange aveuglement. Ses chairs mortes, ses yeux éteints, ses lèvres ensanglantées criaient aux citoyens qu'il était temps de défendre leurs antiques libertés. Le grand agitateur mettait à profit la cruauté du bâtard et se servant du langage énergique du temps. Ouverture de guillemets. Telle cheville, disait-il, pend au manteau de chacun de nous. Il faut remède de résistance. Unissons-nous. Donnons la main au pays des ligues et ne craignons rien, car nul n'ose toucher à leurs alliés, non pas plus qu'au feu Saint-Antoine. Aidons-nous et Dieu nous aidera. Fermeture de guillemets. La jeunesse, le peuple, tous les corps généreux prêtaient l'oreille au discours de Berthelier. Mais, ouverture de guillemets, les gros et les riches, dit Bonnivard, étaient en crainte à cause de leur richesse qu'ils préféraient à leur vie. Fermeture de guillemets. Ces gros et ces riches, Montyon et les Ducos, voyant le danger qui menaçait les princes de Savoie dans Genève, résolurent de leur envoyer une seconde ambassade, avec ordre d'aller cette fois-ci jusqu'à Turin et à Pignerolles. Les trois mêmes mamelouks furent chargés de la mission. Les patriotes en furent indignés. « Quoi ? Disaient-ils. Il s'agit de sauver des brebis et ce sont des loups que vous choisissez pour le faire. « Ne comprenez-vous pas, répondit Montyon, que si l'on veut apprivoiser des princes, il faut se garder de leur envoyer des gens qui leur soient mal agréables. » Fermeture de guillemets. Les députés arrivèrent à Turin, où se trouvait alors le duc. Ils demandèrent à être admis à présenter leurs hommages à son Altesse, et comme leur opinion était connue, cette demande leur fut facilement accordée. Ils énoncèrent timidement leur grief. Ouverture de guillemets. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, dit Charles, c'est monsieur de Genève. Allez à Pignerolles vers l'évêque. Fermeture de guillemets. Les députés se rendirent dans cette ville, située dans le voisinage des schismatiques vaudois, que le prélat détestait autant, au moins, que les Genevois. Ayant obtenu audience, les députés récitèrent la leçon qui leur avait été imposée. Ouverture de guillemets. La ville s'émerveille grandement, dirent-ils, de ce que vous avez fait écarteler deux de nos citoyens et envoyer leur quartier aux limites de Genève. Si quelque particulier s'était rendu coupable envers vous de quelque méfait, disent nos concitoyens, vous n'aviez qu'à l'accuser, on l'eût puni à Genève. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, dit l'évêque, c'est monseigneur le duc. Fermeture de guillemets. Les députés mamelouks étaient fort disposés à admettre la moitié des assertions de ces deux princes et à croire que probablement le meurtre ne venait ni de Jean ni de Charles. La mission officielle étant terminée, le prélat, qui savait très bien à qui il avait affaire, ordonna qu'on amusât messieurs les ambassadeurs. Ceux-ci ne demandaient pas mieux. L'évêque, ouverture de guillemets, les entretenaient donc, disent les chroniques, les festoyaient, les banquetaient et leur faisaient bonne chère. Fermeture de guillemets. Les parties de plaisir se succédaient rapidement et les trois mamelouks, oubliant les affaires diplomatiques dont ils ne se souciaient nullement, trouvaient les vins d'Italie excellents et les grâces du bâtard et de sa cour captivants. Cependant, toute bonne chère à sa fin. Les politiques de la cour de Turin voulaient profiter de l'ambassade. Et, tandis qu'elle avait été dirigée contre les usurpations des princes de Savoie, l'affaire habilement tournée contre les libertés du peuple de Genève. Ce n'était pas difficile, car ses représentants le trahissaient. Les trois ambassadeurs, l'évêque, ses officiers et les conseillers ducaux, délibérèrent donc sur la réponse à faire au Conseil de Genève. Les princes, se confiant dans leurs pensionnaires, méprisaient le parti libéral. Mais les trois envoyés, le vidame, Nergaz et Dédéamon, qui avaient vu de près le danger, loin de faire de même, s'effrayaient de cette insouciance. Ouverture de guillemets. Il y a dans Genève, disait-il, de loyaux sujets, mais aussi de mauvais garçons, des mutins, des séditieux, qui, pour échapper à la punition de leur méchanceté, bande le peuple à contracter bourgeoisie avec Fribourg. Le mal est plus grand que vous l'imaginez. Les républiques helvétiques établiront dans Genève leur maudit gouvernement populaire. Il faut donc très aigrement punir les auteurs de tels trafics et écraser les rebelles. Les deux cousins ne demandaient pas mieux. Charles ne se souciait nullement de voir les principes libéraux se rapprocher de la Savoie, et peut-être de Turin. Mais il préférait ne faire au conseil qu'une réponse orale. Les députés, effrayés de la responsabilité dont ils se trouveraient ainsi chargés, insistèrent pour une réponse écrite. Une lettre fut donc rédigée. Le duc et l'évêque y annonçaient au conseil, ouverture de guillemets, qu'ils tiendraient les citoyens pour de loyaux sujets s'ils voulaient aider à irrémissiblement mettre à mort Berthelier et 10 ou 12 autres qu'ils nommaient. Nous vous remettons cette lettre, dirent le duc et l'évêque aux députés, mais vous ne la délivrerez au syndic et au conseil de Genève que s'ils s'engagent par serment, avant de l'avoir lue, à exécuter sans délai les ordres qui s'y trouvent contenus. Fermeture de guillemets. Jamais monarque n'avait affiché des prétentions aussi énormes. Dieu trouble l'esprit de ceux qu'il veut perdre. Les serviles ambassadeurs se gardèrent de rien objecter et, ravis du beau succès de leur ambassade et surtout des fêtes magnifiques de la cour de Turin, ils partirent avec l'étrange instruction dont les deux princes les avaient chargés. Pendant que les Mamelouks et les Savoyards conspiraient à Turin et à Pignerol contre les franchises de la cité, Berthelier et ses amis ne pensaient qu'à les sauver. L'iniquité du duc et d'évêque leur montrait toujours plus combien l'indépendance était nécessaire. Ils résolurent de faire un pas décisif. Berthelier, Bernard, Bonivard, Lévrier, Vandel, Delamare, Besançon Hugues et quelques autres se réunirent pour aviser. Ouverture de guillemets. Jusqu'à présent, dit Berthelier, c'est seulement dans les chambres et les cabinets que nous avons conseillé l'alliance avec les Suisses. Il faut maintenant la prêcher par-dessus les toits. De simples conversations ne suffisent plus. Il est temps de prendre une décision commune. Mais, hélas, où, quand, comment? Les princes de Savoie nous ont accoutumés à ne nous réunir que pour nos voluptés, qui pensent jamais dans nos assemblées au salut de la ville. Fermeture de guillemets. Bonivard prit la parole. Ouverture de guillemets. Ma maison de Saint-Victor, dit-il, et celle de Monsieur de Gingin, nous ont vus souvent en petit nombre pour des conversations familières. Il faut maintenant des salles plus vastes et des réunions plus nombreuses. Voici ma proposition, messieurs. Faisons le bien par le moyen même qui a fait le mal. Profitons des réunions où l'on n'a songé jusqu'à présent qu'au plaisir pour y délibérer dès 7 heures sur le maintien de nos libertés. Fermeture de guillemets. Cette proposition trouva un bon accueil. Depuis le meurtre de Navis et de Blanchet, la tenue de comices huguenots était devenue plus difficile. Les menaces de la Savoie étaient telles qu'on redoutait ce qui pourrait donner prise à des mesures violentes. Ouverture de guillemets. Il y a, dès les temps anciens à Genève, dit l'un des assistants, une certaine confrérie de Saint-Georges, qui est maintenant abâtardie, mais non anéantie. Restaurons-la, rendons-la utile. Servons-nous-en pour sauver nos franchises menacées par les envahissements des princes savoyards. Fermeture de guillemets. Berthelier, à la sortie de ce conventicule, se mit aussitôt à l'œuvre. Quand il voulait rassembler ses amis, il avait coutume de passer en sifflant sous leurs fenêtres. Il se mit donc à parcourir les rues d'un air indifférent, mais l'œil au guet, et faisant entendre un coup de sifflet chaque fois qu'il se trouvait devant la maison d'un citoyen dévoué. Les huguenots prêtaient l'oreille, reconnaissaient le sifflet du chef, descendaient, s'approchaient. On leur donnait rendez-vous tel jour à telle heure. Ce jour arriva. Ouverture de guillemets. nous nous trouvâmes, dit Bonivard, environ 60. C'était peu, mais on n'avait pris que les hommes de cœur et d'exécution. Ce n'était point une assemblée de conspirateurs. Les hommes les plus sages du peuple s'étaient réunis et ne pensaient nullement à sortir des droits que la Constitution leur accordait. En effet, Berthelier et Besançon-Hugues proposèrent simplement l'alliance avec les Suisses. Ouverture de Guillemets. Cette pensée n'est point une imagination sortie d'un cerveau creux, dirent-ils. Les princes de Savoie eux-mêmes nous y obligent. En nous enlevant nos foires, en foulant les lois aux pieds, en rompant nos rapports avec les autres peuples, ils nous contraignent à nous unir aux Suisses. Fermeture de Guillemets. En voyant la Savoie rompre violemment les branches de l'arbre, s'efforcer même de le déraciner, ces patriotes étaient décidés à l'enter sur l'arbre antique et plus vigoureux des libertés helvétiques. Le bruit de cette décision, que l'on s'efforça pourtant de tenir secrète, arriva à Turin. Rien au monde ne pouvait causer tant de colère et tant d'effroi à l'évêque et au duc. Ils répondirent immédiatement le 12 octobre, en envoyant l'ordre de faire juger Berthelier le mois suivant par des commissaires épiscopaux. C'était le livrer à la mort. Aussitôt le conseiller Marty de Fribourg, homme brusque, mais intelligent, chaud, dévoué, prompt, instruit de ce qui se passait, arriva à Genève. L'amitié la plus sainte s'était formée entre lui et Berthelier. Lorsque, assis au même foyer, ils avaient conversé ensemble sur Genève et la liberté. La pensée que la mort pourrait, d'un jour à l'autre, frapper un homme si cher et si précieux, remuait profondément Marty. Il se rendit à l'hôtel de ville où le conseil des 50 s'était réuni, et s'y montra à la fois plein de tendresse pour Berthelier et de menaces pour ses adversaires. Ouverture de Guillemets. « Messieurs, dit-il brusquement, c'est la cinquième fois que je viens ici pour la même affaire. Je demande que ce soit la dernière. Protégez Berthelier ainsi que le demande l'évangile de la ville. Ou prenez garde. Fribourg a toujours voulu votre bien. Ne l'obligez pas à changer d'avis. Ne clochez pas toujours des deux côtés. Décidez-vous pour les uns ou pour les autres. Le duc et l'évêque disent une chose, et ils en font toujours une autre. Ils ne pensent qu'à perdre vos libertés, et Fribourg ne pense qu'à les défendre. » Fermeture de Guillemets. Le conseil, qui trouvait plus commode de donner la droite aux uns et la gauche aux autres, qui voulait ménager Fribourg et l'évêque, trouva ce discours un peu rude. Il remercia toutefois Marty, mais il ajouta que pour lui faire une réponse précise, il devait attendre le retour des députés envoyés à l'évêque et au duc. Néanmoins, dirent les syndics, nous maintiendrons à l'égard de Berthelier les libertés de la ville. Fermeture de Guillemets. Les députés qu'on attendait de Turin, Nergaz, Déliamont et le vidame, ne tardèrent pas en effet à arriver. En rentrant dans la libre cité, ils étaient encore tout éblouis des pompes de la cour piémontaise et tout remplis des idées que les partisans du pouvoir absolu leur avaient inculquées. Ouverture de Guillemets. Tout est dans le prince, leur avait-on dit, et le peuple ne doit pas avoir d'autre volonté que la sienne. Fermeture de Guillemets. Ne pensant donc qu'à réclamer pour l'évêque une autorité absolue, ils parurent le 29 novembre devant le petit conseil, et lui dirent d'une voix impérative, ouverture de guillemets, nous avons ordre de Monseigneur l'évêque de ne nous acquitter de notre mission qu'après que vous vous serez adjoint 20 autres citoyens des plus éminents. Fermeture de guillemets. Les princes de Savoie voulaient ainsi s'assurer la majorité. Le conseil consentit à cette demande. Ouverture de guillemets. Nous demandons, ajouta le syndic Nergaz, qu'ils prêtent serment en notre présence de ne rien révéler de ce qu'ils entendront. Fermeture de guillemets. Qu'est-ce donc que tout ce mystère, se demandait-on? Toutefois, le serment fut prêté. Alors les ambassadeurs, faisant un pas de plus, dirent « Voici la lettre où Monseigneur fait connaître sa souveraine volonté, mais avant de l'ouvrir, vous devez vous engager par serment à exécuter tous les ordres qui s'y trouvent. » Fermeture de guillemets. Un morne silence accueillit cette demande étrange. Un despotisme si franc étonnait non seulement les amis de la liberté, mais encore les mamelouks eux-mêmes. Ouverture de guillemets. « Remettez-nous la lettre qui nous est adressée, afin que nous la lisions, » dirent Besançon Hugues et les autres membres indépendants du conseil. « Non, » reprit Nergaz, « d'abord le serment, et ensuite la lettre. » Quelques partisans de Savoie eurent l'impudence d'appuyer cette requête. Mais les amis de l'indépendance s'y opposèrent fermement, et la séance fut levée. Ouverture de guillemets. Il doit y avoir dans cette lettre quelque secret nuisible au peuple, disait-on. On résolut de réunir le conseil général pour que les ambassadeurs lui fissent eux-mêmes leur message. Cet appel au peuple déplaisait fort aux trois députés. Toutefois, ils s'encouragèrent à remplir jusqu'au bout leur mission. Le dimanche 5 décembre, le son de trompe se fit entendre. La grosse cloche de la cathédrale sonna à toute volée, les citoyens ceignirent l'épée, et la grande salle de rive fut toute pleine de peuple. Ouverture de guillemets. Acquittez-vous de votre message, dit-on aux trois députés. Ouverture de guillemets. Notre message se trouve dans la lettre, dit Nergaz. Et notre seule instruction est que les conseils de Genève, avant que de l'ouvrir, s'engagent par serment à faire ce qu'elle commande. Fermeture de guillemets. Ces paroles excitèrent parmi le peuple une immense agitation. Ouverture de guillemets. Nous avons un si bon conducteur, disait-on avec ironie, que nous devons le suivre les yeux fermés, sans crainte de tomber avec lui dans la fosse. Comment douter que le secret contenu dans ce papier mystérieux soit un secret de justice et d'amour? S'il y a des sceptiques parmi nous, qu'ils aillent au noyer du pont d'Arve, où sont encore les membres de nos amis? Fermeture de guillemets. Messieurs, dirent les hommes les plus graves, nous vous rendons la lettre close et vous prions de la renvoyer à ceux qui vous l'ont baillée. Alors Nergaz, irrité, s'écria âprement. « Je vous avertis que Monsieur de Savoie a beaucoup de troupes en campagne et que si l'on n'exécute pas les ordres contenus dans cette lettre, aucun homme de Genève ne sera plus en sûreté dans ses états. Il l'a dit et je l'ai entendu. » Fermeture de guillemets. Le peuple, ayant cela, fut moult irrité. Ouverture de guillemets. « Vraiment ? » s'écria-t-on. Si nous ne jurons pas à l'avance de faire une chose sans même la connaître, ceux d'entre nous qui possèdent des terres en Savoie ou qui y voyagent seront traités comme Navis et Blanchet. Fermeture de guillemets. Alors plusieurs citoyens se tournant vers les trois députés. Avez-vous demeuré 5 ou 6 semaines de l'Allemont, leur dirent-ils, banquetant, vous divertissant, triomphant et faisant grande chair pour nous apporter de telles dépêches? Ô Rhône, ô Rhône, les traîtres! Fermeture de guillemets. Les trois mamelouks tremblaient devant la colère du peuple. Allait-on vraiment les jeter dans les eaux du fleuve pour les laver des souillures qu'ils avaient contractées dans les fêtes de Turin? Lévrier, Besançon Hugues et autres gens d'étoffe apaisèrent les citoyens et les serviles députés en furent quittes pour la peur. Le calme s'étant rétabli, les conseillers rendirent la lettre des princes à Nergaz et à ses deux collègues, en leur disant « Nous ne voulons pas l'ouvrir. » On craignait l'influence des créatures de Savoie qui étaient en bon nombre dans le Grand Conseil. Nous appelons ainsi le corps établi en 1457, qui ne fut d'abord que de 50 personnes et qui, souvent augmenté, donna plus tard naissance au Conseil des 200. Le peuple retira donc à cette assemblée un privilège qu'il lui avait donné en 1502 et arrêta que le Conseil général seul déciderait dorénavant de tout ce qui regardait les libertés de Genève.